Pense ensemble, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, comment lis-tu, c'est-à-dire comment le vis-tu? Et ça, c'est la question type que l'on pose au rabbin. Parce que, vous voyez, on pouvait se poser la question de savoir, est-ce que les rabbins mettent d'abord la relation au prochain, l'horizontale, comme nous disons, ou bien est-ce qu'ils mettent d'abord la relation à Dieu, c'est-à-dire la verticale. Alors, les rabbins qui voulaient éviter le piège disaient les deux. Et je lui dis, tu as répondu correctement, j'ai rien à t'apprendre, fais ça et tu vivras. Fais ça et tu vivras. Fais la même. Or, lui, voulant se justifier lui-même, il dit, mais ton prochain, c'est qui? Hein? Il faut savoir, mon prochain, c'est toi. Est-ce que c'est le juif, mon frère, le premier, celui qui est là, ou bien c'est le païen qui est au bout? Alors Jésus trouve une formulation très intéressante. On voit qu'il est vraiment rabbin. Hein? Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et il tomba par hasard sur des brigands qui, l'ayant déshabillé, lui ayant imposé des coups, s'éloignèrent de l'espoir de lui mort. Et tous les mots portent, hein. Parce que un homme mort, ou un homme éventuellement presque mort, va être touché. Enfin, un prêtre, suivant certains, dans une tradition, la légitime ne peut pas le toucher. Parce que, pourquoi? Un mort, c'est quelqu'un qui est déjà proche de la mort, donc il est une impureté. Et donc, s'il veut faire son service au temple, s'il est prêtre, vous lui dites, il ne peut pas toucher un mort, sauf son père et sa mère. Ça, c'est dans la tradition. On voit là que Jésus connaît bien la tradition pharisienne. Et alors, ils discutaient, quand est-ce qu'on voit qu'un homme est mort? Quand il ne peut plus se lever sa tête sur son cou. Hein? C'est à demi-mort. Et à ce moment-là, on ne peut plus toucher. Mais ça, c'est la casuistique. La casuistique de l'époque. Mais, vous voyez, c'est intéressant parce que, puisque c'est un homme de loi, Jésus le prend, hein, dans le domaine de la loi, tu connais bien toutes les filasteries de la Torah, pour être tout à fait pur.
C'est des drôles de soins palliatifs.
Ça me parle de à ce niveau-là, voilà. Oh, par là, Jésus continue. Après, je descendais dans ce chemin-là, et en plus, passe à l'autre côté, exactement comme il doit faire. Il suit la loi. La loi de Dieu, qui lui demande à ce moment-là de ne pas être au prochain pour pouvoir être à Dieu. Et Jésus montre des exemples concrets où la loi a séparé l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Donc, semblablement, on évite aussi certains pharisiens, pas tous, certains pharisiens étendaient cette loi particulière hein, qui avait été édictée par la tradition, bien sûr, pour les prêtres, l'étendaient aux lévites, pas tous. Et Jésus, non, de loi, un lévite aussi. Étant venu par le lieu, l'ayant vu passer à l'autre côté. D'accord. Or, un samaritain. Ah oui, mais un samaritain, il n'a pas la tradition. Il n'a pas la tradition des anciens. Donc il est plus libre. Et puis c'est un samaritain. Hein? Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un lévite, c'est un rabbin. Et voyez que Jésus va se mettre. Tous les pères de l'Église le disent, le Samaritain est au fond la figure de Jésus. Il n'est pas lié à la tradition pharisienne. Il la connaît bien, et il a été éduqué dans cette tradition, mais il n'y est pas lié. Et en ce sens-là, il prend distance. Il est un peu Samaritain par rapport à la loi stricte de Jérusalem. Un certain Samaritain, cheminant, vint à lui, l'ayant vu, fut ému de compassion. Le terme ému de compassion ne se retrouve que trois fois dans l'évangile de Luc. Une fois, dit de Jésus, lorsqu'il voit le fils de la veuve de Naïm, il est ému de compassion. Et oui, mais là, nous ne sommes pas dans Luc, hein, là, avec Lazare, nous sommes dans Jean. Et alors, dans le fils prodigue, quand le père voit son fils revenir, il est ému de compassion. C'est une caractéristique du père que le fils porte avec lui. Fut ému de compassion, et s'étant avancé, il panda ses blessures, versa de l'huile et du vin. Et ça, c'est Luc. Il fait attention à tous ces détails concrets. Et l'ayant fait monter sur sa propre monture, il le mena à une hôtellerie tout près de lui. Il va jusqu'au bout du service. Il peut le faire librement, il n'est pas tenu par la Torah. Et le lendemain, ayant tiré le denier, il les donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de lui et tout ce que tu dois déposer, en plus, dépenser en plus, hein, quand je reviens, je te le rends. Alors, question, la parabole est toujours faite pour faire réfléchir. Hein. Qui de ces trois, te semble-t-il, se trouve arrivé prochain de celui qui était tombé sur les prières? Le prochain, c'est celui dont tu te fais proche. Et Jésus retourne à terre. C'est pas toi qui choisis ton prochain, c'est celui qui est là. Et dont tu te fais proche, tu te rends prochain. Mais celui qui est là, pas que tu choisisses, prends celui qui t'a donné. Et alors celui qui fit miséricorde avec lui. D'accord, dit Jésus. Jésus lui dit, fais route sans cesse. Et toi aussi, fais semblablement. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, fais comme le Fils, fais comme le bon samaritain. C'est-à-dire, lis le commandement de Dieu et le commandement du prochain, faisant un seul et même geste. Et tu vivras à l'intimité du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Ça, c'est une parabole. Et puis après, donc, et cette parabole met en évidence un agir, hein, un faire. Fais quelque chose, fais cela et tu vivras. Fais semblablement. Et puis il y a une écoute. Pour faire, il faut écouter. Il ne faut pas faire ce dont tu as envie, pardon. Il faut faire ce que le Seigneur te dit de faire. Et alors vous avez la rencontre avec Marthe et Marie, où Jésus dit, bon, c'est vrai que le service est important, mais Marthe, tu t'inquiètes et tu es agitée au sujet de beaucoup de choses. Il est besoin d'une seule. Marie a choisi la bonne portion, traduisons pour en meilleure part, la bonne vie et le texte. Elle ne lui sera pas ôtée. Être présent à Dieu, c'est bien sûr te rendre présent au prochain. Et être présent au prochain, c'est écouter Dieu. Il y a un va-et-vient entre les deux. Il ne faut pas séparer l'un de l'autre.
Hier, Abraham, quand il choisit la moins bonne part, au fait, il choisit la meilleure part sur le plan spirituel.
Comme il ne choisit pas, il laisse à l'autre.
Il laisse à l'autre choisir.
Oui. Mais en faisant ça, il choisit la meilleure part sur le plan spirituel.
J'en sais rien.
Depuis plus tard, ça.
Le texte ne dit pas ça.
Et le suggère, ce n'aura pas raconté.
Le texte me dit, laisse choisir l'autre. Alors, après, parce que, vous voyez, si nous lisons le texte comme ça, en fait, nous le lisons mal. Parce que nous disons, il choisit, hein, il laisse choisir l'autre pour pouvoir choisir le bon. Pour choisir le spirituel. C'est pas ça que le texte dit. Il choisit, il laisse choisir l'autre, il lui donne le choix, il lui donne la liberté. Et Dieu montre que dans cet acte de liberté, sa libéralité est présente. Dieu dévoile sa propre libéralité dans l'action qu'a faite Abraham. C'est un peu différent, parce que si on le lit comme tu le dis, hein, on va le lire, c'est comme ça que les gens vont comprendre. Laisse tomber le matériel pour avoir le spirituel. Il ne s'agit pas d'avoir le spirituel, il s'agit de recevoir. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Hein.
se fait que tout de même, après coup, on s'aperçoit que cette attitude-là est ouvre un avenir beaucoup plus vaste, puisqu'il y a la promesse qui surgit. Donc, dans ce sens-là, la lecture se fait par après, bien entendu. On voit les conséquences d'une attitude de générosité.
D'accord.
C'est un problème de désintéressement.
D'accord. Mais justement, il ne faut pas que ça soit lu par les gens comme hein, laisse tomber le matériel, tu auras le spirituel. Tu auras la meilleure part.
C'est ce qu'on dit, hein. Sois riche jusque tu dormes. Donc là, c'est immédiatement réalisé. Tu auras un trésor aussi.
Et puis viens.
C'est
odieux. Mais n'oublions jamais.
C'est odieux, il a oublié les déductions fiscales.
Bien sûr. Sinon, ça n'a aucun sens. Oui.
Je voulais dire que le terme à moitié mort, c'est bien pour expliquer qu'une réimposition du prêt ne peut pas toucher. Oui. Mais. L'expression est beaucoup plus réelle si on dit à moitié vivant. Quoi, ça veut
dire. D'accord, Jésus ici se coule dans un langage déterminé, dans un langage calvinistique, qui parle de la mort, justement. Hein? La mort, ça c'est clair. Et parce que nous lisons un texte avec notre mentalité et nous avons de la peine à d'abord essayer de comprendre la mentalité du texte. Alors c'est vrai, hein, on reste à moitié vide ou à moitié plein, c'est d'accord. Mais ici, le problème c'était à partir de quel moment, la casuistique juive est toujours comme ça, à partir de quel moment quelqu'un peut-il être déclaré soumis. Mort, oui, d'accord. Oui, mais à partir de quel moment peut-on dire que quelqu'un est mort? Ah, quand il est à moitié mort, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, il n'y a plus de retour possible. Hein? Le processus de la mort est enclenché.
Je pense que le phallogramme est nul.
Comme ça que nous. 11. Et il arriva pendant que lui était priant. Intéressant. Chapitre 9, pendant qu'il priait. Chapitre 11, pendant qu'il priait. Sans cesse en un certain lieu. On ne vous dit vraiment pas où. Et alors, la question est posée par les disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi l'enseigna à ses disciples. Et c'est alors que Jésus enseigne le Notre Père, qui se trouve chez Matthieu, hein, au milieu du discours sur la montagne. Vous voyez, il le place dans un tout autre endroit. Où est-ce que Jésus a enseigné ça? J'en sais rien. La tradition dit au Mont des Oliviers, hein, ici, quelque part. Et Matthieu dit en Galilée, près du lac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n'allez pas essayer de mettre la main sur le lieu du Père. Le parterre, c'est votre relation au Père. Et alors, donc, il donne aussi des paraboles. Et je vous mène tout de suite jusqu'à la fin, au verset 13, chapitre 11, verset 13. Si donc vous vous trouvant méchant, vous savez donner, le terme donner est constant, ici dans ce texte, de bons cadeaux à vos enfants, combien plutôt le Père qui est du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui réclament. Votre paternité vient du Père, votre paternité est méchante, votre paternité est limitée, elle est imparfaite, et le don du Père, le don que fait le Père, c'est l'Esprit Saint. Mais pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint, il faut être dans une attitude filiale. Mais, ton nom soit sanctifié, etc. C'est à ce moment-là que Jésus guérit un démoniaque muet et il se met à parler. Jésus dit, oui, c'est en l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu, comme il dit, que je chasse les démons. Et il montre aussi que le don de Dieu, qui est l'Esprit Saint, donne au fond la sagesse. Je pense parce que ce serait vraiment trop long de...
La session, tu as vu il y a des années, sur l'autre, tu avais dit un jour quelque part, ça veut dire partout, toujours.
Oui. Bon, je vais passer tout de suite, parce que sinon, nous n'arriverons certainement pas à voir l'ensemble. Ici, sagesse et Esprit Saint sont mis ensemble. N'oublions pas qu'ils sont mis ensemble aussi dans le chef de Joseph, dont parle Étienne, et dans le chef d'Étienne lui-même, dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Donc nous avons une présentation à travers tous ces textes de Jésus comme Fils, du Père de Jésus et de notre Père, puisque nous avons nous aussi à nous insérer dans cette relation en disant Père, et de l'Esprit Saint comme celui qui donne la véritable sagesse. Et puis nous avons maintenant au chapitre 12 et au chapitre 13 ce jugement des hommes. Le jugement des hommes fait par Jésus. Or, sur ces entrefaites, début du chapitre 12, comme des dizaines de mille de la foule s'étaient rassemblées, c'est un chiffre d'église primitive, ça, hein, c'est pas encore un chiffre de la vie de Jésus, des dizaines de mille, vous vous rendez compte, de sorte qu'ils se piétinaient les uns les autres, il commence à dire à l'adresse de ses disciples d'abord, prenez garde sans cesse vous-même au ferment, lequel est jugement perverti des pharisiens. Je traduis jugement perverti hypocrisie. Hein? Généralement, on traduit par hypocrisie. Hypocrisie, ça veut dire quoi? Crisis, c'est le jugement. Hypo, c'est en dessous. C'est un sous-jugement. On est hypocrite quand on juge en dessous de la réalité. On ne juge pas la réalité telle qu'elle est. Bien, prenez garde au ferment, c'est-à-dire au jugement perverti des pharisiens. Donc, il est question de juger en vérité. Les pharisiens, pourquoi jugent-ils mal? Pourquoi jugent-ils en dessous? Parce qu'ils jugent à partir d'eux-mêmes. Et donc, leur critère est toujours un critère déficient. Tout ce que nous jugeons à partir de nous-mêmes est un critère limité. Nous jugeons à partir de nous-mêmes, que ce nous-mêmes maintenant soit individuel ou collectif. Seul le jugement de Dieu est un jugement objectif. Hein, c'est ça qu'il veut nous dire. Et ce jugement objectif, à quoi pouvons-nous le mesurer? Quel est le véritable critère? À la personne de Jésus. Tout qui dira une parole vers le Fils de l'homme, je suis à 12-10, tout qui dira une parole vers le Fils de l'homme ou contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Ça veut dire que on peut se leurrer, on peut se tromper sur la personne de Jésus. On peut ne pas le découvrir tel qu'il est. Mais celui qui aura blasphémé vers le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Puisque le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs, comme nous l'avons vu tout à l'heure, puisque le Saint-Esprit est celui qui nous rend fils vraiment, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est vraiment en quelque sorte empêcher le Saint-Esprit de vivre dans nos cœurs et d'y habiter. C'est mettre l'obstacle décisif. C'est un avertissement, ceci. Il nous est dit pour le cas où. Et donc, nous disons que personne, finalement, n'échappe à l'Esprit Saint. Il est toujours présent quelque part, dans notre cœur, dans notre vie. Et donc, faites bien attention de ne pas aller à l'encontre de ce que vous êtes. Même si vous n'avez pas encore découvert en Jésus la mesure de ce que vous êtes. Mais quand on vous portera devant les tribunaux et les synagogues, ne vous inquiétez pas de comment présenter votre défense, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faut dire. Laissez donc l'Esprit Saint qui est en vous parler librement comme des fils. Et puis il va expliciter longuement, mais comme c'est un texte qui serait assez difficile et qui prendrait beaucoup de temps pour le décortiquer en entier, il nous montre que ce jugement est précisément ce jugement, c'est-à-dire celui qui nous compare, celui qui nous fait découvrir qui est le Fils, qui nous fait découvrir notre propre réalité de Fils, dans le décalage qu'il y a entre la manière dont nous vivons et le Fils lui-même. Eh bien, cela, c'est véritablement le don de la vie qui nous fait. Il parle de nous comme de serviteurs. Et il nous dit que nous sommes des serviteurs qui attendons la venue de notre maître. Et que nous avons à nous remettre à celui qui est notre père et qui sait ce dont nous avons besoin. Et qui avons à faire ce qu'il nous demande. Heureux ces serviteurs-là, je suis à 12:37, que le Seigneur étant venu, trouvera sans cesse vigilant. Amen, je vous dis qu'il se scindra, qu'il les couchera à table, et temps passé, il les servira. Donc le Fils est celui qui nous sert. C'est en nous servant qu'il nous apprend à être fils. Donc si éventuellement à la deuxième ou à la troisième veille qu'il est venu et qu'il les trouve ainsi, heureux sont ceux-là. Comprenez bien, si le maître de maison savait à quelle heure vient le voleur, il n'aurait pas souffert que sa maison fût percée. Vous aussi, arrivez prêts, parce que le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Nous ne savons pas quand nous devenons vraiment fils, quand nous prenons conscience de notre filiation. Et donc soyez ouverts à recevoir cette filiation à tout moment. Et alors c'est le Seigneur dit le fidèle, le serviteur, l'intendant fidèle et avisé, etc. Et il disait aux foules, je suis au verset 54, quand vous avez vu la nuée s'élevant sur le couchant, vous dites la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous avez vu le vent du midi soufflant, vous dites qu'il y aura du vent brûlant. Et ça arrive ainsi. Homme au jugement perverti. Vous qui jugez toujours à partir de vous-même. Et qui cependant, vous avez bien découvert des signes de la météorologie. La face du ciel et de la terre, vous savez l'examiner. Or, ce moment, comment ne pouvez-vous pas l'examiner? Ce moment où Dieu vous rencontre et vous fait fils. Comment n'y êtes-vous pas ajusté? Or, pourquoi ne jugez-vous pas aussi par vous-même de ce qui est juste? Lorsque tu pars avec ton adversaire devant le magistrat, sur le chemin, fais effort pour te trouver débarrassé de lui, c'est-à-dire discute, négocie, de peur qu'il ne te prenne auprès du juge, et le juge te livre à l'exécuteur, et l'exécuteur te dépense. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies rendu même dernier centime. Le jugement parmi les hommes est un jugement de condamnation. Le jugement de Dieu est un jugement de filiation. Il nous rend fils. Voilà, en gros, la leçon à tirer de tout ce chapitre 12e. Il faudrait maintenant que nous traversions le méandre de ce chapitre qui est long. Je ne le fais pas parce que je voudrais bien arriver au 13, qui est la mort. Dieu nous fait pour la vie et nous mourrons. Ça ne va pas. En ce moment-là, quelques-uns qui rapportent au sujet des Galiléens, donc Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice, c'est-à-dire Pilate avait saisi, contre des révoltés contre Rome, et il avait crucifié un certain nombre, certains disent 5 000, d'autres disent même 20 000 personnes, ça ne sait rien, Et il avait crucifié un certain nombre de ses révoltés pour faire un exemple. Et il les avait pris au moment où il nous offrait un sacrifice, de cela qu'il s'agit. Et donc c'est un fait divers qu'on lui rapporte. Et Jésus dit, pensez-vous que ces Galiléens étaient davantage pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert cela? Non, je vous dis, mais si vous ne vous convertissez pas, semblablement vous périrez. Autrement dit, n'allez pas élucubrer sur le péché des autres, mais regardez le vôtre propre. Et quand vous voyez les choses à la télévision, dans une certaine façon, vous êtes tranquille. Parce que ces événements, ces séismes, etc., viennent à d'autres, mais vous, vous êtes protégé. Et c'est le réflexe normal. Un autre fait divers, hein, des maçons qui étaient en train de réfectionner la tour de Siloé, et cette tour s'est effondrée. Et ces 18-là sur qui tomba la tour à Siloé, et elle est tuée. Pensez-vous qu'ils étaient débiteurs, pécheurs, jusqu'à tout ça? Comme si Dieu intervenait comme cela pour punir les uns parce qu'ils sont plus pécheurs que les autres. Mais non. Ça, c'est la réalité du monde. Ne pensez pas tout de suite que Dieu est présent de l'extérieur, comme ça, dans la réalité. Non. Et où Dieu est-il présent? Dans l'invitation qu'il vous fait à travers cet événement-là, à la conversion personnelle. Là, qu'il est présent. Pas dans l'extériorité des choses, mais dans l'intériorité, c'est-à-dire dans la relation personnelle. Et Dieu est longanime. Et il leur donne la parabole du figuier. Le figuier qui ne produit pas de fruits. Et patientons, patientons. Or, il les enseignait dans l'une des synagogues durant le sabbat, je suis au verset 10. Et voici, il y avait une femme, ayant un esprit de faiblesse, une femme courbée, depuis 18 années. Elle était courbée et ne pouvait se redresser. Jésus l'interpella et lui dit, femme, tu es déliée de ta faiblesse. Et lui imposa les mains. Et subitement, elle fut redressée et elle glorifiait Dieu. Et le chef de la synagogue intervient, s'indignant que Jésus ait soigné le sabbat. Il y a 6 jours dans lesquels il faut travailler. Maintenant, en 6 jours, soyez soignés chaque fois. C'est le jour de permanence. Venez des heures. Pourquoi venir le dimanche pour le sabbat? Et le Seigneur lui répondit, homme au jugement perverti. Et nous vous sous-jugez, vous jugez à partir de vous. Chacun de vous, le sabbat, ne détache-t-il pas son peuple ou son âme de la mangeoire et lui de la boire? Or, celle-ci était fille d'Abraham. Et le Satan l'a liée, voici 18 années. Ne fallait-il pas être détaché de ce lien le jour du sabbat? Puisque le sabbat, et le jour de la guérison définitive, ben, ce sabbat a commencé. Vous jugez toujours avec vos mesures, à vous, vos tarifs. Mais jugez donc selon la gravité. Et alors, il nous parle, vous voyez, tout à fait différent du chapitre 13e de Saint Matthieu, il nous parle du grain de sénévé et du ferment dans la pâte. Ce grain de s'élever et ce ferment dans la pâte, c'est cette filiation qui est enracinée dans nos cœurs et qu'il faut laisser s'épanouir. Mais ce levain, attention, ce qu'il nous dit ici, il est semblable à un grain de s'élever, d'abord le grain de s'élever, que l'ayant pris un homme jeta dans son jardin. Et le terme jeté est intéressant. Il n'a pas planté, hein, il a jeté. Il a mis dehors. Puis voilà que ça pousse. Et semblable à lui faire un mort, qu'ayant pris une femme gacha. C'est une image de Jésus qu'on a mis au dehors, qu'on a caché dans le monde, et qui au fond est ce qui fait vivre le monde. Il n'y a pas d'autre nom dans, le, hein, dans lequel il nous faille être sauvé. C'est une image de Jésus qui, alors qu'il est rejeté par les hommes, devient en fait le ferment du monde et devient la graine qui fait tout pousser. Et c'est là que nous trouvons l'engagement à passer par la porte étroite. Et puis nous avons cette phrase extrêmement importante de la fin du chapitre 31, du chapitre 13, pardon, verset 31. Alors même s'avancèrent certains pharisiens qui lui dirent « Sors ! Fais route sans cette forme ici. » On va le mettre à la porte aussi. Parce que Hérode veut te tuer. Il s'est dit pour que tu échappes à Hérode. Il leur dit, ayant fait route, dites à ce renard, voici, je jette dehors les démons, je mène à terme des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je suis consommé, c'est-à-dire je meurs. Pourtant, il me faut, aujourd'hui et demain et le jour suivant, faire route sans cesse, parce qu'il ne convient pas qu'un prophète périsse au dehors de Jérusalem. Et voilà qu'il revient de nouveau avec sa mort à Jérusalem, son exode, il allait achever à Jérusalem. Et voilà qui s'adresse à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui sont les envoyés auprès d'elle. Combien de fois je voulus rassembler tes enfants à la manière d'une poule rassemble sa propre couvée sous les ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, Jérusalem. Nous, hein, nous, ma société. Toi qui tues les prophètes et lapides de ceux qui sont envoyés, combien de fois je voulus rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa propre couvée sous les ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il nous dévoile à ce moment-là combien nous sommes opposés à sa venue dans nos cœurs. Combien nous refusons le Fils de Dieu. Combien nous refusons d'être fils de cette manière-là. Combien voulons nous fabriquer nous-mêmes. Combien nous sous-jugeons notre réalité. Voici. Votre maison, ça peut signifier le temple, ça peut signifier Jérusalem, ça peut signifier notre vie. Votre maison vous est laissée déserte, sans la présence de Dieu, il n'y a plus rien. C'est vide. Or, je vous le dis, vous ne me verrez certes plus. Vous allez me mettre au dehors de votre vie, vous ne me verrez plus. Je vais disparaître, je vais entrer dans la nuée. Vous ne me verrez certes plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Au cœur de cette désespérance, il y a un chemin. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au-delà de cette méconnaissance, il y a place pour une reconnaissance. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et il dit simplement, hein, le verset 26 du psaume 118, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Je m'arrête. Vous allez dire, j'irai jusqu'au chapitre 13. Nous reviendrons là-dessus cet après-midi, 2h30. Et puis, nous passerons, après avoir été jusqu'au chapitre 17, nous passerons au chapitre à la séquence centrale des Actes des Apôtres, pour essayer de voir le parallélisme, et nous terminerons ce soir en prenant le chapitre 2 des Ephésiens.
Alors, on reprend.
C'est davantage dans l'unité du texte, l'unité de la parole de Luc. Alors, je vous ai dit qu'il y a une expérience capitale à faire à la fin du chapitre 16e, c'est de découvrir à quel point nous ne voulons pas recevoir Jésus comme fils de Dieu. À quel point nous sommes vraiment résistants à la grâce. Et il ne faut pas avoir peur, même si parfois ça donne un peu le vertige, ne pas avoir peur de plonger au cœur de notre péché, parce que c'est là qu'il est. Et de découvrir jusqu'à quel point, mais constamment, dans tout ce que nous faisons, nous résistons. Nous avons vraiment un mal fou à accepter d'être des enfants bien-aimés de Dieu. Vrai, vous direz, mais tout le monde aime d'être aimé, oui, tout le monde aime d'être aimé. Exactement. Tout le monde aime d'être aimé. Mais se sentir absolument vide, ne plus se sentir aimé ou aimant, et recevoir gratuitement l'amour de Dieu simplement parce qu'il m'a donné, vous voyez, c'est une expérience extrêmement difficile, extrêmement dure à vivre. Ceux ou celles parmi vous qui ont fait les exercices de Saint Ignace sauront que c'est là que mène la première semaine des exercices. Découvrir jusqu'à quel point le péché d'origine, le péché du monde, mon propre péché, m'infecte. C'est le terme qui est utilisé par Saint Ignace. Jusqu'à quel point je suis infecté. Et découvrir que si je suis sauvé, c'est vraiment par pure grâce que je n'ai absolument rien mérité. Le mérite est absolument exclu. Et donc, ce qui m'est demandé, c'est de tout recevoir. C'est de me recevoir moi-même d'abord. Mais tout recevoir. C'est ça, être fils. C'est recevoir d'exister. Recevoir d'être. Et recevoir d'exister, recevoir d'être, c'est me recevoir tel que je suis, bien entendu, tel que je suis maintenant, tel que je suis infect, tel que je suis pécheur, tel que je suis résistant, tel que je suis traître, tel que je suis renégat. Et de savoir jusqu'à quel point je m'exclus moi-même et je suis exclu. Si je ne perçois pas cela, un peu, et donc de plus en plus, le saint le perçoit de plus en plus. Si je ne perçois pas cela, je ne découvrirai pas vraiment la gratuité et l'amour de Dieu. Je vais toujours projeter sur Dieu des amours à l'aune humaine. Dieu aime l'ingrat que je suis. La preuve, disait saint Paul, dans le début du chapitre 5e que je vous ai cité, la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Oh oui, on pourrait mourir pour un homme juste, hein, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour nous, on veut peut-être encore bien accepter de mourir. La preuve qu'il nous aime et qu'il nous a aimés alors que nous étions opposés à lui. Il nous aime dans notre position même à lui. Ça, c'est inimaginable. Ça, c'est inimaginable. Et vous voyez, la grâce de Luc, l'évangile de la grâce, la parole de la grâce, c'est d'avoir saisi cela, me semble-t-il, à une profondeur extraordinaire qui nous dit, dans ces versets que je vous citais ce matin, voici, votre maison vous est laissée déserte. J'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Tout ce en quoi je me confiais, tout cela, votre maison vous est laissée déserte. Vous avez abattu votre maison. Il ne reste plus rien. Eh bien, quand il ne reste plus rien, moi je suis capable, dit le Seigneur, de construire. Je suis capable de faire de quelqu'un qui n'a plus rien, d'en faire un véritable fils, d'en faire une véritable fille de Dieu. Mais ce n'est pas pure grâce. C'est cadeau. Totalement cadeau. Et peut-être que la chose que nous avons le plus de mal à recevoir, c'est un cadeau. Un cadeau qui n'est que cadeau. Je voudrais bien l'avoir quand même un peu mérité. Hein. C'est quand même pour mes beaux yeux que tu le fais. Non. Pas pour tes beaux yeux. Et c'est ce qui est dit constamment dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas à cause de toi, à cause de tout ce que tu as fait, à cause de tes mérites, etc., que je te donne ça. C'est à cause de mon nom. Hein, vous trouvez ça constamment. Et nous l'avons vu quand nous avons vu Ézéchiel. Ça revient tout le temps. À cause de mon nom. C'est-à-dire, parce que j'ai gratuitement. Découvrir Dieu, c'est découvrir cette gratuité-là. Et découvrir cette gratuité-là, c'est en même temps découvrir combien Dieu est miséricorde. Ce n'est pas parce que je prie qu'il vient vers moi. C'est parce qu'il est déjà venu vers moi que je prie. Et donc dans ma prière, dans le sentiment que j'ai de n'être rien du tout, dans la perception de mes limites, il est. Voilà. On ne peut vraiment percevoir cela que celui ou celle qui a commencé à en faire un peu l'expérience. Et Luc, je crois, a tellement plongé dans la miséricorde de Dieu, c'est pour ça qu'il est devenu l'évangile de la grâce et l'évangile de la miséricorde, qu'il peut nous le faire un tout petit peu saisir. Et c'est pour ça que j'appelle ce chapitre 13e le goulot. Savoir que je ne suis capable de rien. Je voudrais être quand même un tout petit peu. Et il arriva, pendant que lui était venu vers la maison de quelqu'un des chefs des pharisiens. Il est toujours l'ami des pharisiens. Hein? Il arriva pendant qu'il était venu, et il est venu. Un sabbat, vous mangez le pain, c'était au début du chapitre 14. Alors eux étaient en train de surveiller. Intéressant de voir que nous sommes toujours en train de surveiller le Seigneur. Et voici, il y avait un certain homme hydropique. Nous avons vu une femme courbée, il fallait s'attendre à voir un homme maintenant, c'est fini. Pas s'étonner. Il y avait un certain homme hydropique devant lui. Et ayant répondu, Jésus dit à l'adresse des légistes et des pharisiens, est-il permis le sabbat de soigner ou non? Oui. On lui disait qu'il fallait. Il ne fallait pas soigner le sabbat parce qu'il y avait des jours de permanence qu'il a fait pour ça. Le médecin venait sur les lieux. Est-il permis le sabbat de soigner tout le monde? Ceux-ci restèrent en repos et ils se taisent. Ils ne veulent pas prendre position. Et ayant saisi, ils le guérirent en voyant. Jésus prend la décision libre de le rendre, de le guérir et de le rendre. Le jour du sabbat. Et puis il dit la même chose, hein, c'est un simple écho à ce que nous avons entendu tout à l'heure. De qui d'entre vous, le fils ou le bœuf, tombera dans un puits et ne le retirera-t-il pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils n'eurent pas la force de répliquer ainsi. Ce que Jésus veut manifester dès le départ du chapitre 14e, c'est cette gratuité-là. Il est évident qu'on peut soigner n'importe quand, surtout le jour du sabbat. Mais pour cela, il faut découvrir le sabbat autrement. Il faut faire ce renversement. Et alors, on nous parle, pendant tout ce chapitre 14e, de repas. Tout est centré autour du repas. Pourquoi autour du repas? Parce que le repas symbolise le partage. On partage la même nourriture, on partage les mêmes discours, les mêmes paroles. Le repas est le lieu où l'on communie. Quand on invite quelqu'un et qu'on partage la nourriture, c'est la nourriture qu'on a gagnée. Hein? Donc c'est quelque chose de soi que l'on partage. Et donc, l'image du repas est quelque chose de très important. Une fois passé le boulot, il faut se découvrir dans une communauté où l'on reçoit en partage la présence même de Dieu. Mais je ne suis jamais seul, toujours avec les autres. Et c'est pourquoi vous allez voir dans ces versets 7 à 14 du chapitre 14e, on parle du temps d'appeler. Et il disait à l'adresse des appelés, hein, de ceux qui ont été invités, enfin, disons généralement pas invités. Je traduis par appeler parce que c'est le caléo toujours. Bon, il disait à l'adresse des appelés une parabole. Remarquons comment il choisissait les premiers divans. Nous choisissons d'être le plus près possible du Seigneur. C'est-à-dire, nous nous mettons en avant. C'est exactement le contraire de la gratuité. Nous voulons, en quelque sorte, mériter par une place d'être plus proche de lui. C'est lui qui se fait proche, c'est pas nous. Laissons-le venir. Comme il choisissait les premiers divans, il disait à leur adresse, « Quand tu as été appelé par quelqu'un des noces, ne te couche pas à table au premier divan, à pas prendre ta première place. De peur qu'un plus estimé que toi n'ait été appelé par lui. » Ceci, c'est dans le langage de l'analogie. Ça ne veut pas dire que tu estimes plus l'un que l'autre. C'est l'analogie, quand tu es dans l'avant. Et étant donné, celui qui t'a appelé, toi et lui, te dira, laisse place à celui-ci. Alors tu commenceras, avec honte, à occuper la dernière place. Mais quand tu as été appelé, ayant fait route, allonge-toi à la dernière place. C'est-à-dire, sois conscient que tu ne mérites rien. Et qu'il n'a aucune place à usurper. Aucune. Il n'y a pas de privilège. Et en fait route, allonge-toi à la dernière place, afin que...